Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique.
Mr. President.
Fabienne Synthès, sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 6, Harry Truman, l'improbable président. Quand Franklin Delano Roosevelt propose à Harry Truman d'être son vice-président, Truman répond non. Il ne s'y voit pas du tout, il est très bien simple sénateur, il l'est d'ailleurs devenu faute d'avoir d'autres projets. Et pourtant c'est le même homme qui devra remplacer Roosevelt au pied levé, qui terminera la guerre dans le Pacifique en lâchant les premières bombes atomiques, qui tiendra tête à l'Union soviétique naissante pendant le blocus de Berlin, qui enverra des GI en Corée. Truman jure comme un charretier, il est fils de rien, il pratique souvent et pas toujours avec bonheur la politique du poing sur la table. Mais s'il reste dans l'histoire comme un président impopulaire, son nom n'a certainement pas disparu des manuels. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Notre historien, notre accompagnateur et notre guide dans notre traversée américaine tout cet été. Avant d'entamer le récit, Corentin, il faut planter un peu le décor. On a déjà rencontré dans cette série des présidents par accident, mais alors là, particulièrement, il y a absolument mais rien dans la vie d'avant d'Harry Truman pour l'emmener jusqu'à la Maison Blanche.
Non, absolument rien. C'est un parcours constellé d'échecs qui n'était pas nécessairement de son fait. Il n'a pas fait d'études, il n'a pas pu faire de carrière militaire, même si la Première Guerre mondiale lui permet, grâce à la conscription, d'entrer dans l'armée. Mais il fait faillite. Il est sénateur, certes, mais il est élu grâce au réseau, j'allais dire presque mafieux, d'un boss de parti local, Pendergast. C'est un homme donc vraiment complètement inattendu, qui n'a pas du tout le profil. Contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs qu'on a rencontrés, il ne vient pas de New York, il ne vient pas de la Californie.
Il vient du Missouri. Il vient de la campagne.
Il vient vraiment de la campagne. Il a donc un profil complètement atypique quand il devient président en 1945.
Et c'est même pas un ambitieux, parce qu'après tout, on peut jouer les Rastignac, lui même pas.
Non, tout lui est venu un peu par la volonté des autres. Par exemple, c'est Pendergast, son mentor, qui finira en prison, faut le dire, qui dans le Missouri a fait entièrement sa carrière et que Truman a laissé faire sans prouver une volonté d'acier, de faire carrière justement.
Alors, à sa décharge quand même, et c'est ce qu'on verra, il arrive au pire moment de l'histoire américaine. Au fond, en tout cas, il arrive au tournant fondamental de l'histoire américaine.
C'est vrai que quand on regarde Harry Truman, on est frappé par le contraste incroyable entre cette personnalité qui, jusqu'en 1945, n'a pas fait d'étincelle particulière et n'était pas du tout destinée à ce poste, et ce qui l'attend, c'est-à-dire devenir le premier président de la superpuissance des États-Unis, le premier président des États-Unis nucléaires. Et le contraste est tellement saisissant qu'on pouvait s'attendre à des catastrophes, et finalement, et c'est ce qu'on va voir pendant ce récit, il s'en sort, cet homme venu de rien.
À tout de suite, bien sûr, Harry Truman, l'improbable président, un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca de Nantes et Claire Tesser, réalisation Fabrice Laigle.
La conférence de Crimée s'est tenue à Yalta. Dans cette somptueuse résidence d'été arrivent successivement les ministres des Affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. Monsieur Stettinius, puis Monsieur Eden. Churchill entre à son tour. Puis le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Monsieur Molotov et Monsieur Stettinius pénètrent dans la salle de la conférence et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre.
Février 1945, la victoire des Alliés n'est plus qu'une question de semaine et sur les bords de la mer Noire, à Yalta, l'histoire retiendra que trois hommes partagent le monde. En tout cas, c'est ce qu'on met sur la légende de la photo parmi les plus célèbres du XXe siècle. En réalité, c'est la guerre froide qui se dessine, mais à ce moment-là, Churchill, son éternel cigare à la main, Roosevelt, amaigri, un manteau noir sur les épaules et Staline en uniforme, pensent tous les trois mettre l'Europe, au moins pour un moment, à l'abri d'une nouvelle guerre. De ces discussions, ces tractations, ces compromis difficiles à l'autre bout du monde, Harry Truman, lui, ne sait rien. Le vice-président est resté à Washington. D'ailleurs, le même après-midi, pendant qu'à Yalta, on décide du sort du monde, il remet des décorations à des vétérans de la Grande Guerre dans les jardins de la Maison-Blanche. Et comme souvent, même pour une cérémonie sans enjeu, Truman prononce un discours hésitant, il n'est pas à l'aise. En public, il ne l'a jamais été, et il le sait. De Yalta, donc, Truman ne sait rien. Et d'ailleurs, il ne sait pas grand-chose des grands dossiers de la présidence. Roosevelt ne le met que très rarement au courant, il n'y songe pas. Il estime même souvent que partager ses idées et décisions serait une perte de temps. Dans les 80 premiers jours de la 4e présidence de Roosevelt, les deux hommes se sont croisés deux fois. Harry Truman est donc le plus souvent au Sénat, en bon soldat, il vend les projets de loi de la Maison-Blanche. Et bien sûr, il sait que Roosevelt est malade, qu'il est de plus en plus fatigué, épuisé même. Mais le vice-président est très très loin de se projeter dans le bureau ovale. Truman n'est pas un homme de Washington, ça n'est même pas un homme de la ville. Il est né dans le Missouri, en pleine campagne. Sa famille n'a pas un sou, il ne termine pas ses études, il ne s'envisage guère plus que fermier comme son père. Il joue plutôt bien du piano, on peut le croiser dans les bars de Kansas City. En réalité, il rêve de West Point et d'académie militaire. Mais Harry Truman est petit, pas bien bâti et surtout il est totalement myope. L'armée refuse son dossier, le jeune homme se fait enrôler, faute de mieux, dans la garde nationale du Missouri. Lors de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, le bataillon d'Harry Truman est réquisitionné et envoyé en France. À 33 ans, le jeune homme découvre l'horreur des tranchées, un épisode qui va le révéler et même le changer, comme l'écrit l'historien Georges Ayache.
Devenu capitaine et plébiscité par ses hommes de troupe pour sa simplicité, Truman commande une unité d'artillerie sur les champs de bataille des Vosges et ensuite lors de l'offensive sur la Meuse et en Argonne. Lorsque la guerre se termine, Harry Truman, qui n'était alors rien d'autre qu'un simple soldat, prend conscience de ses qualités de meneur d'hommes, ce que ses activités antérieures du temps de paix n'avaient pu lui révéler.
De retour au pays, Harry Truman laisse cette expérience derrière lui. Il se marie avec Bess, qu'il connaît d'ailleurs depuis leur plus tendre enfance et à qui il avait déjà demandé la main plusieurs fois. Il ouvre une petite boutique de confection à Kansas City. La récession fait le reste, Truman se retrouve criblé de dettes. Familier des cercles des vétérans de la Première Guerre, il se dit alors que la politique est une solution comme une autre. Il est d'abord juge de paix du comté. Et puis président de la cour, cornaqué par l'un des parrains de la politique locale. Mais Truman garde son intégrité, c'est d'ailleurs ce qui fait sa réputation. Et en 1934, il finit par se faire élire sénateur du Missouri sous les couleurs démocrates. À son entrée au Capitole, Truman traîne derrière lui l'image de cet homme de la campagne qui n'appartient pas au sérail, on ne le fréquente guère. Mais très vite, démocrates et républicains doivent reconnaître qu'Harry, l'homme du Missouri, est travailleur et compétent. Il ne cultive surtout aucune ambition et ne cherche à faire concurrence à personne. Favorable au New Deal du président Roosevelt, Harry Truman vote à chaque fois dans ce sens. Il est promu directeur du programme fédéral pour l'emploi un an plus tard. Et en 1941, alors que les États-Unis viennent d'entrer en guerre, il convainc le Sénat et la Maison-Blanche de le nommer à la tête d'une commission d'enquête spéciale pour lutter contre la fraude dans les contrats d'armement passés par le gouvernement. C'est la commission Truman qui permet aux discrets sénateurs de se faire un nom et aussi à l'État de faire d'importantes économies. Aux yeux de tous, Harry Truman est incorruptible et d'une probité sans égale. Or, à l'approche des élections de novembre 1944, le président sortant, Franklin Roosevelt, donc, brigue un quatrième mandat. Le peuple américain est prêt à le suivre. Il faut un colistier. Le choix d'Harry Truman, ça n'est même pas une idée de Roosevelt, mais il laisse faire les cadres du Parti démocrate. Après tout, l'homme ne fait pas de bruit, il est sérieux, il saura rester dans l'ombre. Seule Bess Truman, qui connaît parfaitement son homme, avouera qu'elle a peur que le costume soit bien trop grand si Roosevelt venait à mourir.
Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. And if you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music, the rip-roaring harmony hound, none other than Duke Ellington. Take your bow, Dukey. First
number... We interrupt this program to bring you a special news bulletin from CBS World News.
Une agence de presse vient d'annoncer à l'instant que le président Roosevelt est mort. Le président est mort d'une hémorragie cérébrale.
Nous sommes le 12 avril 1945, donc 2 mois seulement après Yalta. Cette scène est souvent décrite, Harry Truman s'approche timidement d'Eleanor Roosevelt. Il n'a pas encore prêté serment à la première dame, il dit « Puis-je faire quelque chose pour vous, Madame Roosevelt ?» Et la femme du président défunt se retourne et répond à Truman « Harry, ce serait plutôt à moi de vous poser cette question. » Dans les jours qui suivent, partout à travers les États-Unis et dans les capitales du monde, on rend hommage au grand président élu 4 fois, mort épuisé par la charge et par la maladie. Des cérémonies qui disent à quel point l'héritage est lourd à porter pour son successeur, qui vient donc d'être investi 33e président des États-Unis. Le premier grand rendez-vous à l'agenda du nouveau président est aussi son premier grand test. Truman est président depuis 10 jours. Il a rendez-vous avec Vyacheslav Molotov. C'est le ministre des Affaires étrangères de Staline. C'est aussi son bras droit et son âme damnée. C'est à lui que l'on doit les exécutions sommaires et les déportations au goulag. Molotov est venu saluer Truman sur sa route pour San Francisco, où va s'ouvrir la première conférence sur l'Organisation des Nations Unies, la conférence fondatrice de l'ONU. On peut imaginer que Truman n'est pas très à l'aise, c'est à peine s'il est installé à la Maison-Blanche, il ne connaît pas encore la stratégie des conseillers militaires pour mettre fin à la guerre dans le Pacifique, il a été au moins informé du projet Manhattan et de la bombe atomique. Sur Yalta, il a été briefé en quelques jours par James Burns, son futur secrétaire d'État, qui avait aussi été le Sherpa de Roosevelt au bord de la mer Noire. Après une première entrevue cordiale, le 22 avril, Truman, face à Molotov, change de stratégie le lendemain et décide d'attaquer de front. Il a très bien compris que les relations avec les Soviétiques sont en train de se détériorer. Staline essaie de pousser ses avantages en Europe de l'Est. Particulièrement, il veut imposer son tracé sur les frontières de la Pologne, en dépit des accords de Yalta. Truman devient brutal, menaçant. Il accuse Molotov de mentir, lui reproche de ne pas respecter ce qui a été signé. Molotov essaie de se défendre, Truman l'interrompt et le cloue dans son fauteuil. « Personne ne s'est jamais permis de me parler comme ça », s'indigne l'homme de Staline. Truman, du tac au tac, lui répond « Respectez vos engagements, Molotov, et on ne vous parlera pas de cette manière ». Tout cela est bien peu diplomatique, mais diablement efficace. Truman n'aime pas le régime soviétique, au moins c'est clair. Le nouveau président devait s'affirmer face à Staline et durcir la relation. C'est fait. En juillet 1945, 5 mois après la conférence de Yalta et 2 mois à peine après la capitulation de l'Allemagne nazie, nouveau rendez-vous à Troyes. Même photo, sauf que cette fois, bien sûr, c'est Truman qui est entre Churchill et Staline pour la conférence de Potsdam. Il sourit, Truman, sur certains clichés, comme s'il était presque étonné de se voir ici. Le Troisième Reich est démantelé, mais clairement, c'est Staline qui a la main. Il contrôle déjà l'essentiel de l'Europe centrale et la moitié de l'Allemagne. Dans sa manche, Truman a un atout. Il ne prononce pas le mot nucléaire, mais il glisse dans une conversation qu'il a désormais dans son arsenal, une arme très puissante. Elle a d'ailleurs été testée avec succès quelques jours avant l'ouverture de la conférence. À cet instant, le rapport de force vient de changer. Il se transforme en un face-à-face, USA-URSS. D'ailleurs, Churchill ne terminera pas la conférence, remplacé à mi-parcours par son successeur, Clément Attlee. Dans la nuit du 6 août 1945, un avion bombardier B-29 de l'armée américaine décolle de l'île de Tinian dans l'archipel des Mariannes dans le Pacifique Nord. La suite, on la connaît, Hiroshima puis Nagasaki.
Il y a peu de temps, un avion américain a lâché une bombe sur Hiroshima. Cette bombe est plus puissante que 20 000 tonnes de TNT. C'est une bombe atomique, la puissance de l'univers domestique.
L'Amérique n'est plus en guerre, mais le retour à la paix est brutal. La fin de l'économie de guerre, c'est toute l'industrie de l'armement, de la métallurgie qui tourne désormais au ralenti. Plusieurs millions d'hommes sont démobilisés, ils rentrent rejoindre leur famille aux États-Unis, mais nombreux sont ceux qui ne trouvent pas d'emploi. La situation économique se dégrade rapidement, l'inflation explose, Truman a le congrès à dos. Au mois de janvier 1946, face au refus des patrons d'augmenter les salaires, 800 000 ouvriers de la métallurgie, des abattoirs, de l'automobile se mettent en grève. Les chemins de fer aussi cessent le travail. Le mouvement est dur. En mettant tous les grévistes ensemble, tous secteurs confondus, le pays cumulera 116 millions de jours de grève. Truman n'a aucune intention de céder. Le temps n'est pas à faire du social. Il considère qu'il faut au contraire poursuivre l'effort de guerre en temps de paix pour redresser l'économie. Il fait réquisitionner les mines de charbon en grève. Il saisit les moyens de production à Détroit, la capitale de l'automobile. Quand des émeutes éclatent, il ordonne à la garde nationale d'intervenir. Truman, convaincu qu'il a raison, va jusqu'à poursuivre en justice le leader des mineurs grévistes. Au passage, il l'insulte, son ton habituel vis-à-vis de ses adversaires politiques. Devant le Congrès, il parle d'un Pearl Harbor de l'intérieur. Il dit qu'il nationalisera les chemins de fer s'il le faut et fera conduire les trains par des militaires.
Depuis 2 jours, le pays est en proie à une grève des chemins de fer qui menace de paralyser toute notre vie industrielle, agricole, commerciale et sociale. Si les personnels grévistes ne reprennent pas le travail, je m'engage immédiatement à faire appel à l'armée pour que celle-ci prenne en main le contrôle des chemins de fer. Il ne s'agit plus d'un conflit entre les travailleurs et la direction. Il s'agit désormais d'une grève contre le gouvernement des États-Unis. Ce genre de grève ne peut pas être toléré.
Some people people say a man is made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone, with a mind that's weak and a back that's strong. He loads 16 tons. What do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Well, I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up a shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul. He loaded 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
À l'été, les ouvriers retournent progressivement au travail, mais l'opinion saura se souvenir des grèves de 1946. Truman en sort contesté, terriblement impopulaire. Les Américains qu'il avait vu arriver avec bienveillance dans le costume de Roosevelt n'ont déjà plus aucune indulgence pour ce gouailleur trop brutal. Corentin Salin, on laisse ce récit-là juste un instant pour s'arrêter quand même sur ces deux premières années d'Harry Truman. Les Russes sont en train de s'imposer partout en Europe de l'Est, la guerre froide est là, il faut mettre fin à la guerre contre le Pacifique, il y a les grosses grèves de 46, c'est dense comme deux premières années quand même.
C'est d'autant plus dense que Harry Truman n'avait jamais réfléchi à tout cela. Autant Franklin Roosevelt, son prédécesseur, avait pensé dès 1941 le monde de l'après-guerre et avait commencé à l'organiser, arrive avec Truman un homme qui doit organiser la fin de la guerre et le monde de la paix sans jamais avoir réfléchi. Et donc il y a une sorte de, pas d'improvisation, mais d'histoire qui se construit pas à pas, sans grand projet bien construit, sans grand dessin immédiat. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que très vite, Truman apporte sa patte personnelle, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'être une pure réplique de Roosevelt. Il est effectivement très vite beaucoup plus agressif dans le rapport diplomatique, en particulier personnel, n'hésite pas parfois même, on l'a vu avec Molotov, à rudoyer ses interlocuteurs. Et il sait, contrairement à ce qu'on a dit pendant longtemps, il n'attend pas 1947. Hein, dès 1945-46, il a des rapports, des informations qui lui remontent sur le fait que l'Union soviétique ne respecte pas, en particulier ses engagements de Yalta. Et simplement, lui qui apprend en même temps la présidence, essaye de parer au mieux, de parer au plus pressé. Et ce n'est pas forcément très visible pour l'opinion publique, qui, elle, se concentre sur la scène intérieure. Et c'est ce qui explique aussi qu'il devient vite impopulaire, parce que tout ce qu'il fait en termes de diplomatie, nécessairement un peu secrète, ça ne se voit pas à l'extérieur.
Et du coup, effectivement, aux yeux de l'opinion, ce sont surtout les grèves de 46, c'est la situation intérieure. Et les élections à mi-mandat de 1946, il les perd à plate couture.
Ah oui, il les perd massivement. Il perd le contrôle des deux chambres, qui est, à l'époque, pour le Parti démocrate, absolument incroyable. Et surtout, c'est vraiment lui qui les perd, parce que par exemple, on peut rappeler que les Républicains, avec une ironie plutôt mordante, avaient comme principal slogan pendant cette campagne de 1946 « To err is Truman », c'est-à-dire au lieu de « l'erreur est humaine », « l'erreur est Truman ». Donc on voit qu'il était vraiment la cible privilégiée des Républicains et cela fonctionne. Donc il faut bien dire qu'à ce moment-là de notre récit, après les élections de mi-mandat 1946, plus personne ne croit qu'en 1948, Truman peut encore être élu président des États-Unis.
Merci Corentin Salin. On se retrouve comme d'habitude après la deuxième partie du récit.
Autumn in New York, why does it seem so in New York, It spells the thrill of first nighting, glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They're making me brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with it's autumn in New York. It's good to live it again.
Autumn in New York. The gleaming rooftops at sundown. In New York, it lifts you up when you run down. Yes, Jane Ruiz and gay divorces who lunch at the Ritz will tell you that is divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York. You'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park. Great autumn in New York. It's good to live it again.
Thank you. It's good to live it again.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Saintès sur France Inter.
Ce bruit de moteur d'avion, ce ronronnement ininterrompu, rythme jour et nuit comme une litanie sans fin, le silence des ruines de Berlin. Par la voie des airs, depuis le blocus terrestre exercé par les Soviets, c'est-à-dire depuis juin dernier, arrive à Berlin jour et nuit la nourriture, la chaleur, le travail, c'est-à-dire le pain, la viande, le charbon, les matières premières, et cela par l'intercession de ce mot quasi magique, de ce mot hier encore impensable, aujourd'hui encore incroyable dans son gigantisme, le pont aérien.
Le bruit au-dessus de la ville est infernal. Tous les jours, 225 avions font des allers-retours permanents, les soutes pleines de nourriture, de biens de consommation, de courriers, 6700 hommes sont mobilisés. Staline a coupé les accès terrestres vers Berlin, aux Américains, aux Britanniques et aux Français. Un coup de bluff géant pour mettre définitivement la main sur la ville. Truman ordonne alors à l'US Air Force de mettre en place un pont aérien géant, la plus grande opération militaire jamais organisée en temps de paix. Le blocus de Berlin, c'est aussi la toute première grande crise de la guerre froide. Il durera 11 mois et Staline finira par céder. Si le président Harry Truman peut agir vite et décider seul, c'est grâce à une loi votée quelques mois plus tôt. Le National Security Act permet à la Maison-Blanche, sous couvert de lutter contre le communisme, de prendre des décisions sans en référer au Congrès si la sécurité du pays ou les intérêts américains sont menacés. Dans le même esprit, à Washington, l'immeuble du Pentagone, siège jusqu'ici du ministère de la Guerre, se transforme en ministère de la Défense, et puis Truman crée la CIA qui lui permet rapidement d'espionner le monde entier. Truman n'est pas homme à partager le pouvoir, la seule d'ailleurs à être de toutes les confidences, c'est sa femme. Elle n'est jamais loin du bureau ovale, elle sait calmer ses colères et encourager ses décisions, ce qu'elle fera d'ailleurs à chaque grande étape de la présidence, et notamment celle-ci.
La vérité, c'est que les besoins de l'Europe pour les 3 ou 4 ans à venir sont tellement plus importants que sa capacité à payer, qu'elle doit bénéficier d'une aide supplémentaire considérable pour faire face à la détérioration très grave de sa situation économique et sociale. Il est naturel que les États-Unis fassent ce qu'ils sont en mesure de faire. Notre politique n'est dirigée contre aucun pays, aucune doctrine, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Les gouvernements, les partis et les groupes politiques qui voudraient perpétuer la misère dans le but d'en tirer un profit politique ou autre se heurteront à l'opposition des États-Unis.
Face aux étudiants de l'université d'Harvard, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, George Marshall, énonce son plan de soutien à l'Europe dévoilé quelques mois plus tôt au cours de l'année 47. Le plan Marshall est une aide financière et matérielle destinée à reconstruire le continent européen. L'idée derrière la tête d'Harry Truman, c'est de tout faire pour que l'Europe, qui souffrait encore de restrictions, ne tombe pas dans les bras du communisme. Et la doctrine du président américain tient en un mot l'endiguement, le containment, endiguer quoi qu'il en coûte l'avancée et les séductions communistes en Europe. Le Congrès a laissé les coudées franches à Truman, il a de l'argent et on se lance aussi dans une guerre de l'image et de la communication. En Autriche, la CIA fait installer des émetteurs radio ultra puissants à proximité de la frontière avec la Hongrie qui diffuse en continu les messages de Voice of America. Hollywood est mise à contribution. Le cinéma devient un vecteur de propagande pour diffuser l'American Way of Life et stigmatiser les traîtres au service du communisme.
colorful, song-filled, star-studded extravaganza with a pair of lovely, gorgeous, delicious beauties and with that funny, fresh, fabulous Foster family soon to be your favorite film folks.
Now watch the hip. Watch the hip.
Yeah, I am. I am.
We're strictly on the corny side, corny side, corny side. We're strictly on the corny side, and the folks like us that way.
Haven't you forgotten something?
Maybe.
I'm spoiled and egotistical.
That's right. Maybe I'll get used to you, say, in... well, say, in a few years.
If you don't...
so completely that we thank you very sweetly.
Let the joyous news be spread. The wicked old witch at last is dead.
There's a garden. What a garden. Only happy faces bloom there. And there's never any room there for a worry or a gloom there. Oh, there's music and there's dancing and a lot of sweet romancing. When they play the polka, they all get in the swing.
C'est dans cette ambiance que Truman entend gagner les élections de 1948, et franchement, c'est pas gagné. Truman décidément n'arrive pas à être un président populaire. La guerre froide mine le moral des Américains, personne n'a oublié les grèves de 1946, le climat social est toujours explosif, et le caractère de ce petit homme nerveux ne passe pas. Truman est trop rude, ses décisions sont trop solitaires, il a un langage trop vert. À la convention de 1948, Truman perd le soutien des États du Sud parce qu'il vient d'interdire la ségrégation dans l'armée et chez les fonctionnaires fédéraux. Au passage, c'est le premier acte des droits civiques, mais les délégués sudistes claquent la porte pour désigner un candidat raciste. Les démocrates plus progressistes ne sont guère plus enthousiastes. Et d'ailleurs, ils jugent que l'adversaire républicain, après tout, Thomas Dewey, un modéré très apprécié des parlementaires, n'est pas forcément un mauvais cheval. Le seul à y croire... c'est Truman. Le voilà qui part en campagne avec sa femme et sa fille, en train d'une petite ville à l'autre, en insultant copieusement le Congrès qu'il traite d'incapable à chaque étape. Et ça marche. Truman, le jour de sa victoire, se baladera sourire aux lèvres avec sous le bras le Chicago Tribune qui avait imprimé trop tôt la victoire de Dewey. Lors de son discours inaugural devant le Congrès, début 1949, Harry Truman annonce un important programme de réforme.
Harry S. Truman, president and president-elect, comes before Congress. The State of the Union, he says, is good. Then he proposes a new New Deal, emphasizing housing, health, education and inflation control.
Au cours de ces 16 dernières années, notre peuple a créé une société qui offre à chacun de nouvelles possibilités pour profiter des bonnes choses de la vie. Ma récente élection montre que le peuple des États-Unis est favorable à ce type de société et veut continuer à l'améliorer.
Le New Deal, c'est le Fair Deal, la donne équitable, une sorte de continuité du New Deal de Roosevelt, mais qui intègre cette fois un gros volet social. Renforcement du contrôle fédéral sur les crédits bancaires, limitation de la spéculation des marchés, contrôle des loyers, création d'une offre de transport public. Le Fair Deal entend même créer la première sécurité sociale. Sauf que Truman, qui là se comporte vraiment en démocrate, en homme de gauche, se cassera le nez devant le Congrès. À l'exception d'un programme de construction de logements et l'instauration d'un salaire minimum, tout est retoqué. En avril 1949, dans la droite ligne de sa doctrine de l'endiguement, Truman, sans rien demander au Congrès, signe le traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN est le bouclier militaire appelé à soutenir les efforts du plan Marshall en Europe. Un bouclier anticommuniste, alors que, dans le pays, le sénateur McCarthy entame sa chasse aux sorcières et commence à faire des listes. Le 25 juin 1950, le président Truman ordonne le déploiement immédiat d'un important contingent de l'armée américaine en Corée, là encore sans prendre la peine de demander une autorisation au Congrès. Les parlementaires commencent à tiquer. Le républicain Robert Taft est le plus en colère et quand l'année suivante, Truman envoie cette fois 4 divisions supplémentaires en Allemagne, là Taft s'agace vraiment et déclenche au Sénat le grand débat sur la constitutionnalité des actions présidentielles. Truman perd cette bataille. Le Sénat rappelle à l'ordre le président et lui demande qu'à l'avenir, tout déploiement de troupes au sol à l'étranger soit soumis à l'approbation des parlementaires. L'opinion américaine, d'abord favorable à l'intervention en Corée, se retourne contre le président. La presse titre « La sale guerre de M. Truman ». Et M. Truman, qui déteste qu'on lui dise qu'il a tort, limoge le commandant en chef des forces armées en Corée, le très populaire général Douglas MacArthur, qui avait contesté une décision de la Maison-Blanche. Décidément, Truman veut toujours avoir raison, tout seul, et même dans les affaires internes. Fin 1951, il impose un strict contrôle des salaires dans l'industrie sidérurgique. Le bras de fer avec les syndicats et les patrons se termine une fois de plus par un coup de gueule. Truman veut tout nationaliser, encore une fois sans l'aval du Congrès. Cette fois, les entreprises sidérurgiques poursuivent Truman en justice et c'est la Cour suprême qui désavoue le président en actant qu'il a outrepassé ses droits et bafoué ceux du Congrès. Truman est discrédité de toutes parts et c'est sur cette image qu'il part en janvier 1953. Un Américain sur trois estime alors que son action a été positive et nécessaire. Un sur deux pense qu'il a été trop loin dans son rôle de commander-in-chief.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique sur France Inter.
Mr. Holland and Rosie may come out and play. She's a good girl now. Won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you made no trouble of my skin. It's not a problem, nor has it ever been. You invited me into your home, treated me like I was grown. I was only 18, and Rosie was a beauty queen. Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. I'm a good boy now, won't be no trouble, no how. By the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular Joe. I wanted a soda, and you said Rosie could go. Anyway, I like your style, seem like I'll be around for a while. We can talk about a country mile and listen to a blues record, check it out, oh! Hello, Mr. Holland, and Rosie may come out and play. It's a good world now, won't be no trouble, no how. And by the way, Mr. Holland, I like the way you treat me like a regular bill. My name is not a problem, and oh, it never will. Anyway, I like your way, people ought to be able to play. And keep your soul as black as the night when you're walking straight into the light. Oh, now.
your soul is black as the night. As you walk into the bright light, mama used to fear for me. When you go out in the world, you see some people will fear your face and name. But Mr. Harlan, don't play that game. Oh, Mr. Harlan. Oh, Mr. Harlan. Oh, Mr. Harlan. Oh, always treat me right. Hey, Mr. Harlan.
President of the United States.
Presidents. Ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Saintès.
Corentin Célin, c'est l'heure de notre petit exercice favori et traditionnel. Harry Truman, alors, sur l'échelle de Trump?
Alors là, on mettrait une très mauvaise note, un 2 ou 3 sur 10. Parce que...
Ou une très bonne, donc ça dépend de quel point de vue on se place.
Exactement, mais parce que les deux hommes n'ont vraiment pas grand-chose en commun. Du point de vue de l'origine sociale, on l'a vu. Du point de vue des idéaux, Harry Truman, est surtout aujourd'hui, est considéré quand même comme un des présidents les plus progressistes de l'histoire des États-Unis.
Moi j'ai appris, grâce à vous, la sécurité sociale et puis surtout les droits civiques. La déségrégation dans l'armée, dans la fonction publique.
Oui. Il a commencé, effectivement, même si c'est resté, et ça lui a été aussi reproché, c'est resté timide, mais il a commencé la déségrégation. Il a effectivement essayé, mais en vain, de créer une assurance santé universelle. C'était donc un homme extrêmement progressiste, donc peu de points communs avec Trump, sauf un, alors qui n'est pas forcément à l'avantage de Truman. On peut leur... tous les deux sont connus quand même pour un caractère souvent hargneux, voire méchant. Truman avait vraiment ce trait de caractère. Et même après sa présidence, il y a une anecdote très célèbre où un jeune historien venu le rencontrer pour écrire sur sa présidence fut renvoyé dans ses foyers, l'ex-président lui conseillant de ne revenir le voir que quand il maîtriserait ses dossiers. Donc Truman avait ce côté extrêmement abrupt dans les relations humaines que l'on peut retrouver parfois chez Donald Trump.
Il était vulgaire même, enfin... On lit des choses là-dessus, il paraît que sa femme était mortifiée.
Oui, c'était un homme qui n'hésitait pas à dire les choses, qui avait aussi un certain goût depuis son commandement dans l'armée en 1917-18, où il avait mené un bataillon dans l'Argonne en France, pour un langage assez vert et assez cru, en effet, en particulier avec ses subordonnés.
Alors, Corentin Célin, moi je vois aussi un autre point commun, on verra d'ailleurs si c'est un point commun, on le verra assez vite au mois de novembre. En 1948, au moment de sa réélection, personne ne croit en Harry Truman, sauf Harry Truman. Il y va en ce qu'on appellerait aujourd'hui une grassroots campaign, c'est-à-dire que, au fond, peu de moyens, mais directement au contact avec les gens. Et il finit par la gagner, cette campagne. C'est peut-être ce dont rêve finalement Donald Trump pour l'élection à venir et celle du mois de novembre.
Oui, et d'autant que il y a quelque chose qui est assez frappant dans l'élection de Truman en 1948, c'est qu'il est assez impopulaire auparavant. Et il est très impopulaire ensuite pendant son second mandat. Et au milieu, on a cette espèce d'oasis d'une élection arrachée. Mais effectivement, parce que là, il sait mettre en valeur ce qui était aussi ses qualités, c'est-à-dire que c'était un Américain moyen, qui était vraiment, qui pouvait ressentir ce que ressentaient les ménages états-uniens confrontés aux difficultés. Il était passé par là, il savait ressentir ça. Et donc, il était excellent dans cette retail politics, dans cette politique du porte-à-porte, dans cette relation presque charnelle avec la population états-unienne.
Ce qui est intéressant aussi avec Truman, c'est sa réhabilitation, en fait. Donc, vous l'avez un peu dit, sur la sécurité sociale, sur tout ça, on se souviendra que ça a été le premier. Mais pas seulement, il y a une relecture de cette présidence. Ce président détesté, au fond, comme vous le disiez à l'instant, va pas le rester au fil de l'histoire.
Oui, contrairement à un Hoover qu'on a rencontré, Truman, c'est un peu le modèle même de la réussite réussite de l'après-présidence. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il frappe l'opinion publique par la modestie de sa vie après la présidence. Il rentre, dans un premier temps, dans la maison familiale de sa femme. Il vit très chichement pendant 18 mois avec sa seule pension d'ancien militaire de la Première Guerre mondiale, à tel point d'ailleurs que c'est pour lui qu'on fera une loi donnant une pension aux anciens présidents. Et les Américains, quand ils voient ça, ils se disent « Ah ben voilà, c'était un homme comme nous ». Et d'autre part, quand ensuite les États-Unis s'enlisent dans la guerre froide, en particulier au Vietnam, et Truman verra tout cela puisqu'il meurt en 1972, on se rend compte que finalement cet homme a su tenir tête à une Union soviétique en pleine expansion, qu'il a quand même évité des conflits, un conflit nucléaire et une troisième guerre mondiale, et on lui saura gré en fait d'avoir su faire tout cela. Et vraiment, il y a une redécouverte de Truman qui ensuite a été d'ailleurs aussi une redécouverte par l'historiographie. C'est aujourd'hui un président qui est vraiment réhabilité, restauré par les historiens, et aussi comme quelqu'un dont la trajectoire est profondément démocratique. Truman, c'est un peu Monsieur Smith va au Sénat de Capra. C'est l'homme moyen, l'Américain moyen, qui par les vertus de la démocratie états-unienne est devenu sinon un grand président, en tout cas un président qui a su mener la superpuissance des États-Unis.
Et vous parliez du poids qu'il avait sur les épaules, effectivement, sans le vouloir. C'est vous qui m'avez raconté que après la présidence, il part avec sa femme en voiture. Enfin, il décompresse complètement. En bon Américain moyen, comme vous dites, effectivement, il va se faire un tour de l'Amérique, quelque chose qui le sortira de ce qu'il a vécu pendant ces années-là.
Oui, il part en voiture à New York, où d'ailleurs il sera verbalisé pour une erreur de conduite. C'est resté célèbre parce qu'il n'avait pas l'habitude. Et ça renforce aussi son côté, cette image d'Américain moyen qui le fait apprécier beaucoup plus après sa présidence que pendant. Et par ailleurs, il a aussi, effectivement, c'est le premier qui a été le premier président de la superpuissance. On l'a vu avec tout cet appareil d'État de guerre froide, la CIA, le Conseil de sécurité nationale. Et chez lui, c'est le premier, mais on le reverra dans nos futures rencontres, c'est le premier président à réellement décompresser après la présidence et à vouloir s'échapper de cette pression terrible qui est maintenant sur les épaules du président des États-Unis.
Corentin Célin, merci beaucoup. Harry Truman, l'improbable président, à réécouter en podcast et sur le site de France Inter. Merci à ceux qui ont prêté leur voix à ce récit. Merci à Philippe Pirard et Eric Oswald. Et merci à Djoubaka, le programmateur musical de la série.